Chères auditrices, chers auditeurs, heureux de vous retrouver, de partager ces moments avec vous. Que le Seigneur vous rende attentif et réceptif à l'enseignement de sa parole, comme il l'a fait pour Lydie, marchande de précieuses étoffes et originaire de la ville de Thyatire. Le mois passé, nous avons examiné divers symboles qui illustrent l'Église de Jésus-Christ. Nous avons évoqué l'édifice, le corps, l'épouse, etc. Tel le corps, l'Église est un organisme vivant et non une organisation. Chaque membre du corps a une ou plusieurs fonctions qui participent à son développement et à sa bonne santé. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Cependant, chaque membre du corps est utile, voire indispensable. J'ignore si, à ce jour, la science a compris l'utilité de l'appendice iléo-caecal, mais le Créateur l'a prévu au bon emplacement et pas pour rien. Comme le triangle, instrument à percussion, intervenant parfois dans un orchestre symphonique pour une seule note dans tout le concert. Paul le rappelle aux Thessaloniciens. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. La vocation de l'Église, c'est-à-dire sa mission, son service, est d'être la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Chargé de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Je cite 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, Bible français courant. Mais vous, êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Chaque membre du corps est impliqué dans ce programme. Sauvé pour servir. Servir le Dieu vivant et vrai. Ce jour, nous traitons des services dans l'Église, mais aussi des services de l'Église. Car en premier, il faut placer les services tournés vers le Père. Jésus, au bord du puits de Jacob, a dit à la femme samaritaine, je cite, Jean chapitre 4, verset 23, Bible français courant, Jean chapitre 4, verset 23, mais le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que veut le Père. Chaque croyant est un adorateur. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, 15. Bien que révoquée, car elle n'a rien amené à la perfection, voir Hébreux chapitre 7, verset 18 et 19, et chapitre 8, verset 7 et 9, l'ancienne alliance préfigurait la réalité de la nouvelle alliance fondée sur Christ, qui est le souverain sacrificateur et le sacrifice unique. Voir Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs ont été pris dans une tribu parmi le peuple. Exode chapitre 28, versets 1 à 5. Nombre chapitre 8, versets 5 à 19. Et ils avaient une fonction d'intermédiaire entre le peuple et l'Éternel. Ils formaient une classe à part, un clergé. Dans la nouvelle alliance, pas d'intermédiaire humain, car Jésus est seul médiateur. Mais chacun est sacrificateur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, pour offrir le vrai culte en esprit et en vérité. Jean chapitre 4 verset 24. Chaque croyant est appelé à adorer. Comment ? Nous avons un exemple donné dans le ciel. Je lis Apocalypse chapitre 7, 11 et 12. Tous les anges se tenaient autour du trône, des anciens et des quatre êtres vivants. Ils se jetèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. Pour adorer, les anges se prosternent et s'expriment. Ils disent les paroles qui viennent d'être citées. De même pour les 24 anciens assis sur 24 trônes. Je lis Apocalypse chapitre 11, verset 16. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. » Peu avant de mourir, Jacob a adoré Dieu. Cela nous est précisé dans l'Épître aux Hébreux. Je lis chapitre 11, verset 21. Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph peu avant de mourir. Il s'appuya sur l'extrémité de son bâton et adora Dieu. A-t-il prononcé quelques paroles ainsi appuyées sur son bâton? Ou est-il dans une attitude de contemplation? L'Écriture dit simplement, il a adoré. Dans les services tournés vers le Père, nous sommes d'abord des adorateurs. Ensuite, nous sommes appelés à être des intercesseurs. Priez les uns pour les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Romains chapitre 10, verset 1er. Les exemples d'intercession sont nombreux dans les Écritures. Abraham plaide pour Sodome et Gomorre. Genèse chapitre 18. Voici comment, je cite, « Seigneur, vas-tu vraiment faire périr ensemble l'innocent et le coupable? Il y a peut-être 50 justes à Sodome. Vas-tu quand même détruire cette ville? Ne veux-tu pas lui pardonner à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Non, tu ne peux pas agir ainsi. Tu ne feras pas mourir l'innocent avec le coupable, de sorte que l'innocent ait le même sort que le coupable. » Il n'est pas possible que le juge de toute la terre ne respecte pas la justice. Et Abraham insiste. Peut-être, aux 50, il en manquera 5. Puis il baisse le nombre à 30 et à 20. Écoutons encore Abraham. Je cite chapitre 18, verset 32. Alors Abraham dit, « Je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas. C'est la dernière fois que je parle. On n'en trouvera peut-être que 10. Je ne détruirai pas la ville à cause de ces 10, dit Dieu. Moïse, quant à lui, va jusqu'à dire, je cite, « Pardonne-leur, je t'en supplie. Sinon efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. » Exode, chapitre 32, verset 32, Bible français courant. Jésus recommande à chacun de, je cite, Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 38. Attention à ce que dit Ésaïe. Je cite, « L'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède. » Ésaïe chapitre 59, verset 16. Par le prophète Ézéchiel, Dieu dénonce une situation catastrophique qui appelle un jugement. L'inconduite des prophètes, des prêtres, des chefs est manifeste. Le peuple aussi est coupable. Il commet des extorsions. Il opprime le malheureux et le pauvre. Il exploite l'étranger au mépris de toute justice. Ah, si seulement il y avait un intercesseur. Voici ce que dit le Seigneur. Je cite Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve pas. Dieu cherche des adorateurs. Il cherche aussi des intercesseurs. Après la désignation d'un roi, le prophète Samuel prend congé du peuple d'Israël en disant, je cite, « Quant à moi, je me garderai bien de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Je continuerai de vous indiquer le bon et droit chemin. » Nous écoutons une page musicale.
Te servir, pas pour être sauvé, mais pour te remercier de l'être. Te servir, non pas pour mériter d'être tes héritiers, mais naître à la vie, à cette vie offerte, à cette porte ouverte, te servir comme on glisse dans les délices, oui, te servir comme on respire, te servir pas pour être sauvé, mais pour te remercier de l'être. Te servir tout comme un enfant rêve, comme un parfum s'élève, renaître. Te servir sans en avoir conscience, comme on dort, comme on danse.
Après les services tournés vers le Père, voyons maintenant les services tournés vers les hommes. En premier, nous trouvons le témoignage. Jésus a dit « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. » Actes chapitre 1, verset 8, Bible français courant. Témoins de Jésus-Christ. Nous n'avons pas à être les avocats du Seigneur, car, si vous me permettez l'expression, il est, entre guillemets, assez grand pour se défendre lui-même. Simplement être des témoins. Simplement dire ce qu'il a fait pour nous, comme le Seigneur le recommande à l'homme délivré de mauvais esprits et qui voulait rester avec lui. Je cite, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et l'homme est parti et a proclamé dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. La force du témoignage est dans la véracité des faits rapportés et non dans l'extraordinaire mis en avant, comme on le voit parfois quand, malheureusement, certaines personnes, pour se donner de l'importance, disent des choses qui ne sont pas. L'Évangile nous rapporte ceci concernant l'action de Jean-Baptiste, le précurseur. Je cite « Beaucoup de gens vinrent à lui. Il disait « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Évangile de Jean, chapitre 10, verset 41. Résultat, et là, beaucoup crurent en Jésus. Même chose pour la femme samaritaine. Elle a dit à ses concitoyens, je cite, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Résultat, ils sortirent donc de la ville et vinrent trouver Jésus. Et beaucoup ont cru en Jésus parce que la femme leur avait déclaré « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Puis, ils ont été encore bien plus nombreux à croire à cause de ce que Jésus disait lui-même. Le vécu parle plus fort que les paroles. Voici ce que Paul écrit aux Corinthiens, je cite « Vous êtes notre lettre de recommandation, connue et lue de tous les hommes. vous êtes manifestement une lettre de Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. Pierre écrit ceci, je cite, « Afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. » 1 Pierre chapitre 3, verset 1, chapitre 3, verset 1er. Cela vaut aussi pour le cas où c'est l'épouse qui ne croit pas. Hélas, parfois l'attitude du conjoint est contre-productive, car ses actes ne correspondent pas à ce qu'il dit être. Étienne est cité un exemple. Je lis Actes chapitre 22, verset 20. « Et lorsqu'on a mis à mort Étienne, ton témoin, j'étais là moi aussi. » Avec Étienne, le mot « martyr », soit « témoin », a pris cette profondeur que l'on connaît et qui souligne jusqu'où va la fidélité d'un tel service. Après le témoignage, nous trouvons mention de la prédication. Je lis Actes chapitre 6, verset 4, Bible français courant. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. D'autres versions traduisent par, je cite, le ministère de la parole. Le prédicateur doit annoncer la parole de Dieu, comme Paul l'écrit à Timothée, je cite, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Ce service de la prédication n'est pas confié à tous les membres du corps. Je lis 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 et 29. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? À ces questions, la réponse implicite est non. Jacques apporte une précision, je cite, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Chapitre 3, verset 1er. Le but, l'objectif de ce service de la prédication est, petit a, amener les perdus au salut. Je lis Actes, chapitre 26, verset 18. « Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux. » Pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu. Petit b, contribuer au développement du corps et à l'affermissement dans la foi de chacun de ses membres. Je lis Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes, des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Paul déclare « Notre capacité vient de Dieu ». 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Dieu qualifie chacun pour le service auquel il est appelé. Cela concerne tous les services, qu'ils soient entre guillemets spirituels ou entre guillemets matériels, voire les nommés Betsalel, Oholiab et tous les autres. Exode chapitre 36, verset 1er. En qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit « Vous recevrez, vous serez ». Dans 1 Corinthiens 12, 28, il est dit « Puis ceux qui ont les dons de secourir, de gouverner, dons de secourir, de gouverner, ce sont là des qualifications spirituelles pour l'administration de l'Église et des actions humanitaires. » Après une nouvelle page musicale, nous dirons quelques mots sur les ministères de la parole.
Qu'il a donné sa vie, c'est par amour. C'est par amour qu'il m'a pardonné en m'appelant à lui. C'est par amour. Son nom est Jésus. Il est mon sauveur, mon salut. Jésus est mon guide, mon meilleur ami. Dans ce monde sa douceur.
Comme annoncé, voici maintenant quelques précisions sur les ministres de la parole ou prédicateurs. Petit a, apôtre, c'est un envoyé, un chargé de mission. Jésus leur a dit, je cite, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean chapitre 20, verset 21. L'enseignement est la marque des apôtres. Je lis Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Les 12 sont les apôtres fondateurs. Voir Apocalypse chapitre 21, verset 14. Ils ont posé le fondement sur Jésus, la pierre d'angle. Les prophètes mentionnés dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 sont ceux de l'ancienne alliance, voir 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. Ce fondement, cet enseignement est appelé la saine doctrine, voir 1 Timothée chapitre 1, verset 10. 1 Timothée chapitre 1, verset 10 et 1 Timothée chapitre 4, verset 6. 1 Timothée 4, 6. Après les 12, envoyés par Jésus, il y a eu les envoyés des églises, dont Barnabas. Je lis Actes chapitre 14, verset 14. Quand ils apprirent cela, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent vers la foule. De nos jours, on retrouve ce ministère chez certains missionnaires, car ils fondent et établissent des églises locales. Petit b, prophète. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Nous distinguerons trois catégories de prophètes. Il y a ceux de l'ancienne alliance. L'apôtre Pierre écrit à leur propos, je cite, « Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut » et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ, car cet Esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Christ devait subir et la gloire qui serait la sienne ensuite. Dieu révéla au prophète que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Ce message vous a été communiqué maintenant par les prédicateurs de la bonne nouvelle qui en ont parlé avec la puissance du Saint-Esprit envoyé du ciel. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12, Bible français courant. Puis, nous avons les prophètes mentionnés dans le texte d'Éphésiens 4, 11, je cite, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. » Quand on évoque le mot « prophète », ce qui vient à la pensée en premier est la notion de « celui qui annonce l'avenir ». Et à contrario, pour dire que l'on ne peut pas répondre à certaines questions portant sur des choses inconnues, on utilise la formule, je cite, « je ne suis pas prophète ». Ou alors, pour se risquer à un pronostic, on dira, je cite, « sans être prophète, je peux vous annoncer que… » etc. Car c'est évident. Et en effet, on trouve bien chez une catégorie de prophètes de la Nouvelle Alliance cette capacité à révéler l'avenir. Exemple avec le nommé Agabus. Je lis Actes chapitre 11, versets 27 à 30, Bible français courant. En ce temps-là, des prophètes se rendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, guidé par l'Esprit Saint, se mit à annoncer qu'il y aurait bientôt une grande famine sur toute la terre. Elle eut lieu en effet à l'époque où Claude était empereur. Les disciples décidèrent alors que chacun d'eux donnerait ce qu'il pourrait pour envoyer de l'aide aux frères qui vivaient en Judée. C'est ce qu'ils firent et ils envoyèrent des dons aux anciens de Judée par l'intermédiaire de Barnabas et Saul. Ici, deux choses sont à relever. Le prophète prédit un événement à venir sous l'inspiration du Saint-Esprit, et les disciples décident de la suite à donner. Après une tournée missionnaire, Paul et ses compagnons font étape à Césarée. Pendant qu'ils logent chez Philippe, l'évangéliste, l'un des sept qu'on avait choisis à Jérusalem pour former un conseil de sages, arrive de Judée le nommé Agabus, celui qui a prédit la famine ou bien un homonyme. Je lis Actes chapitre 21, verset 10. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un prophète nommé Agabus. Il vint à nous, prit la ceinture de Paul, s'en servit pour se ligoter les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté de cette façon par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront aux étrangers. » Après avoir entendu ces mots, nous-mêmes et les frères de Césarée avons supplié Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Mais il répondit, « Pourquoi pleurez-vous et cherchez-vous à briser mon courage? Je suis prêt, moi, non seulement à être ligoté, mais encore à mourir à Jérusalem pour la cause du Seigneur Jésus. » Ici, trois choses sont à relever. Le prophète prédit. Les compagnons de Paul et les chrétiens de Césarée préconisent une suite à donner comme une voie de la sagesse. Et en dernier, c'est Paul qui décide, car le prophète n'a pas vocation à diriger la vie des autres, à décider pour eux. Hélas, trop de dérives et de manipulations ont eu lieu sous couvert de, je cite, « Le Saint-Esprit m'a dit pour toi ». Il y a des années de cela, un jeune prédicateur célibataire a été abordé par une chrétienne avec ces mots « Frère, le Seigneur m'a dit que je devais me marier avec vous ». Réponse du prédicateur « Dès que le Seigneur me le dira, cela se fera ». Cet homme est décédé à plus de 80 ans, célibataire. Dans le discours aux responsables de l'église d'Éphèse, Paul leur dit ceci, je cite, « Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit-Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Exemple, lors d'une escale de 7 jours à Tyr. Je lis Acte chapitre 21, verset 4. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Au sujet de Paul, il est dit « lié par l'Esprit ». Au sujet des chrétiens, il est dit « poussé par l'Esprit ». La décision finale appartient toujours à chacun, car chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 12. L'Écriture est très claire à ce sujet. Aucun prophète n'a vocation à diriger notre vie par des directives qu'il recevrait pour nous, c'est-à-dire à notre place. Il est une tendance bien humaine, en réaction à des faits exceptionnels accomplis par des hommes. On les adule, allant même jusqu'à les qualifier, je cite, « un tel l'idole des jeunes », a fortiori, en présence d'un fait surnaturel. Exemple, dans la ville de Lystre, quand Paul fait se lever un homme infirme depuis sa naissance et qui n'avait jamais pu marcher. Acte chapitre 14, verset 8. Voyant ce miracle, le prêtre de Zeus, ainsi que la foule, voulait offrir un sacrifice à Barnabas et Paul. Ces gens à Lystre ne connaissaient pas l'Évangile, mais les chrétiens qui sont des hommes ont aussi ce type de réaction bien humaine, redisons-le. Élever l'instrument, le messager, et le mettre en avant au lieu de glorifier Dieu pour le message. Ainsi, hélas, certains prophètes, sollicités de toutes parts, ont cédé à la demande et ont parlé, je dirais, comme sur commande. Déjà Pierre, à qui Jésus avait annoncé par quelle mort il glorifierait Dieu, apercevant son collègue Jean, demande, je cite, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel, comme le souligne Jean-Baptiste. Élisée, dont les serviteurs du roi de Syrie ont dit, je cite, « Mais le prophète Élisée en Israël est capable de révéler à son roi même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. » Élisée va devoir expliquer à son serviteur que lui, le prophète, dépend toujours de Dieu. Cela lorsque la Sunamite, dont l'enfant vient de mourir, se jettera à ses pieds. Géasi veut la repousser. Mais Élisée lui dit, « Laisse-la tranquille. Elle est remplie d'une tristesse dont j'ignore la cause, car Dieu ne me l'a pas fait connaître. » Nous écoutons une nouvelle page musicale.
Apprends-moi à voir tout comme toi, celui qui ne te connaît pas. Que ma vie soit un écrit qui proclame que tu vis. Fais de moi ton serviteur, mon roi, que je sois ta joie. Fais de moi ton serviteur, mon roi. Je veux te servir, mon roi, marcher par amour pour toi. Apprends-moi à voir tout comme toi, celui qui ne te connaît pas. Que ma vie soit.
Nous poursuivons nos remarques au sujet des ministères de la parole, et particulièrement concernant celui de prophète. Puisqu'il est salutaire de rappeler certaines choses, je le redis. L'Écriture est très claire à ce sujet. Aucun prophète n'a vocation à diriger notre vie par des directives qu'il recevrait pour nous, c'est-à-dire à notre place. La décision finale appartient toujours à chacun, car chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains chapitre 14, verset 12. Dans le livre du Deutéronome, Moïse a laissé la mise en garde suivante. Je lis chapitre 13, verset 2. Deutéronome 13, 2. Un jour peut-être, un prophète ou un visionnaire se manifestera parmi vous et vous annoncera un prodige extraordinaire. Si le prodige se réalise conformément à la prédiction, et si l'homme vous invite alors à adorer et servir des dieux étrangers, des dieux que vous ne connaissez pas, n'écoutez pas ce qu'il vous dit. En effet, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous mettra ainsi à l'épreuve, pour savoir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Même un miracle appuyant un discours de prophète ne doit pas nous conduire hors de la révélation des Écritures. On comprend l'attitude sage et noble des auditeurs de l'apôtre Paul dans la ville de Bérée. Par contre, ce ministère de prophète, en sa fonction de prédicateur, fera du bien en répondant aux besoins de l'Église locale par l'enseignement de l'Écriture. Ainsi, une réponse peut être apportée par connaissance de la situation, comme le souligne Paul en écrivant aux Corinthiens, je cite, « En effet, mes frères, des personnes de la famille de Chloé m'ont informé qu'il y a des rivalités entre vous. » Puis je cite encore, « Au sujet de ce que vous m'avez écrit. » Le même enseignement de l'Écriture sera donné par le prophète, car il aura reçu révélation du besoin, de la situation locale. À plusieurs reprises, j'ai eu la joie de constater ces choses. En abordant le service de prophète, nous avons donné une définition générale. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Et nous avons distingué trois catégories de prophètes. Il y a ceux de l'Ancienne Alliance, puis nous avons les prophètes mentionnés dans le texte d'Éphésiens 4:11, je cite à nouveau, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. » Et nous avons ceux mentionnés dans les chapitres 12 à 14 de la première lettre aux Corinthiens. Paul y évoque les dons du Saint-Esprit et leur usage pour le bien de l'Église. L'ignorance que Paul reproche aux Corinthiens n'est pas l'ignorance des dons eux-mêmes, car ils les connaissaient et les possédaient, mais bien celle de leur emploi et de leur contrôle. Je lis chapitre 14, versets 29 à 33. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le prophète ici mentionné est celui qui a reçu l'un des neuf dons spirituels définis par l'apôtre au chapitre 12. Notons ceci, je cite, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. » Chapitre 14, verset 3. Et alors que tous ne sont pas appelés à être prophètes, dans le sens de prédicateurs, tous peuvent prophétiser et être aussi appelés prophètes, parce qu'ils auront donné une parole réconfortante. Dans le cadre des restrictions données, prophétiser successivement mais pas tous à la fois, deux ou trois lors d'une assemblée de l'Église, sinon désordre. Les dérives surviennent lorsque l'Écriture n'est pas respectée, sous couvert faussement spirituel de déclarer, je cite, « Nous ne voulons pas museler le Saint-Esprit ». Or, le Saint-Esprit est celui qui nous amène à respecter l'Écriture. Un livre traite de ce sujet. Le titre en est « Les dons spirituels ». L'auteur, Harold Orton, publié aux éditions Viens et Vois. À ma connaissance, le meilleur sur ce sujet. Je vous en recommande vivement la lecture. Nous sommes au terme du temps qui nous est imparti. Nous poursuivrons cette étude lors de notre prochaine émission. À cet effet, Dieu voulant, je vous donne rendez-vous le troisième jeudi du mois prochain à 10h. Prenez soin de lire et relire les Écritures. Elles ne se contredisent pas. mais se complètent. Attention à ne pas isoler un verset de son contexte. Avec sa grâce, le Seigneur vous éclairera. Amen.